Père, merci pour le plaisir de se retrouver, de célébrer Noël, Seigneur. Quelle brillante idée les chrétiens ont eue il y a de cela des milliers d'années maintenant. Sans que ce soit nécessairement une directive dans tes Écritures, ils ont eu cette idée de célébrer ta naissance, Seigneur Jésus. Et on veut t'adorer ce matin, c'est ça qu'on veut faire. À travers le message de la parole, en écoutant, Seigneur, ce message, en écoutant la lecture des Écritures tout à l'heure, à travers les chants, on veut te célébrer, Seigneur. On veut souligner que cette fête-là, c'est notre fête parce que c'est ta fête à toi. Le jour où Dieu s'est fait homme, est venu parmi les hommes, est venu nous faire connaître Dieu comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Alors aide-nous à être réceptifs et viens faire ton chemin dans nos cœurs, dans notre esprit ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, dans l'édition Second. Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Merci, chérie. Ça me tentait de dire ça. Merci, chérie. Je ne veux pas faire de la polémique ce matin, OK? Je sais qu'il y en a qui sont mal à l'aise. Il y a des chrétiens qui sont mal à l'aise avec l'idée qu'on se donne des cadeaux à Noël. Puis je respecte ça. Vraiment, je respecte ça. Personnellement, je suis confortable avec ça. Puis je vous explique pourquoi. Lorsque les Juifs célèbrent et célébraient la Pâque, c'était un moment où on voulait se rappeler la grâce de Dieu. C'est vraiment ça. Avec l'agneau pascal qui était sacrifié, tout ça, puis on allait, puis on demandait à Dieu de pardonner nos fautes. Maintenant, ce moment-là, qui est un moment extrêmement solennel, où on célèbre le fait qu'on se réconcilie avec Dieu. Pour les Juifs, c'était ça. Pour les péchés faits, on est pardonné avec le sacrifice de l'agneau pascal. Qu'est-ce qui suivait ce moment-là? Une fête incroyable, parce qu'une bonne partie de la viande était conservée, on fêtait, on invitait des gens à fêter, c'était un festin. C'était vraiment une fête qui se passait après ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai mentionné quelques fois, je suis en train de lire un des derniers livres de Tim Keller, Hidden Christmas, et puis voici comment lui l'aborde. Il dit, c'est approprié, ça fait du sens, excusez l'anglicisme, de s'offrir des présents à Noël, parce qu'on est en train de souligner le fait que Dieu nous a donné son plus beau présent, qui est Jésus-Christ. C'est approprié aussi que dans le temps des fêtes, on soit en train de prendre soin des pauvres de manière particulière, puis qu'on veuille partager ce qu'on a. Parce qu'on se rappelle que Christ est venu dans la plus grande humilité. Lui, le roi des rois, a quitté la gloire, puis est né dans une étable, et il n'est pas venu dans l'aristocratie, il n'est pas venu dans la richesse. Et c'est bien pour nous qu'on se rappelle sa condition en se tournant vers les gens qui sont dans le besoin, puis en les aidant à Noël. Maintenant, ceux qui décident de ne pas donner des cadeaux à Noël, je comprends pourquoi ils le font. Parce qu'ils disent, le seul cadeau qui compte vraiment, le seul cadeau qui est important, c'est le fait que Dieu nous a donné son Fils. Et en cela, je suis complètement d'accord avec eux. Et c'est ça qu'on veut souligner ce matin, en étant assemblés pour célébrer Noël. On veut se rappeler qu'à travers toutes les fêtes, malgré toute la joie, les festivités qu'on peut avoir, les cadeaux même qu'on peut donner à nos enfants, il n'y aura rien de plus précieux qu'on ne pourra jamais donner à nos enfants, qu'on ne pourra jamais donner à un être humain, que Dieu n'a jamais donné aux hommes, que de donner Jésus-Christ, son Fils, pour notre salut. Et c'est ça qu'on veut se rappeler ensemble ce matin. Jésus-Christ, c'est Dieu devenu concret qui nous montre sa vraie beauté. Et je suis vraiment content de terminer avec cette idée du Fils de Dieu dans cette courte série. Alors ce matin, je vais être plus bref qu'à l'habitude un petit peu. Je sais qu'on est tous un peu fatigués. On va essayer de prendre un rythme un peu plus rapide, puis je vais être un peu plus bref. On va voir trois points ensemble ce matin. L'incarnation signifie que Dieu devient concret. Deuxièmement, Jésus, la manifestation de Dieu. Jésus, l'expression de Dieu, si on peut dire. Et puis troisièmement, par lui, Dieu nous a donné la grâce et la vérité, comme jamais il l'avait donné auparavant et comme jamais il va le donner dans l'avenir. L'incarnation quand Dieu devient concret. Regardez avec moi le verset 14, Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec le passage, pour le comprendre, il faut retourner au verset 1. D'accord? Donc, si vous n'étiez pas avec nous au début de la série, vous pourrez aller l'écouter sur le site web. Mais Jean 1, 1, Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 14 « Et la parole a été faite chair. » Le grand érudit des Écritures, F.F. Bruce, résume ça comme ça. C'est le jour où Dieu devint homme. C'est vraiment important de saisir ça, d'accord? Lorsque vous essayez de faire une démarche, puis d'étudier les religions sur la terre, puis d'étudier les prophètes sur la terre, puis d'étudier toutes sortes de mouvements, puis seul le christianisme affirme que Dieu, un être invisible, est devenu un homme. Et c'est ça que Jean dit ici. Il dit que la parole a été faite chair. En théologie, lorsqu'on étudie la personne de Christ, c'est vraiment un mystère. On a de la difficulté à bien saisir ça. Mais on va parler des deux natures de Christ en théologie. Sa divinité puis son humanité. Et lorsque le Logos, la parole, le Fils de Dieu, le Christ, s'est incarné, il a adopté une nouvelle nature. Vous et moi, lorsque nos parents nous ont conçus, on a été créé, puis on a une seule nature, c'est notre humanité. Et c'est cette nature-là qu'on va avoir pour l'éternité. Maintenant, Dieu dans l'éternité, Dieu le Fils, avait une nature, sa divinité. Et au moment où il a été conçu par l'Esprit-Saint, au moment où il était enfanté, il a adopté une nouvelle nature. Et Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Et cette nature-là, il va la garder pour l'éternité, ça ne changera absolument jamais. On pourrait aller dans toute l'idée que ça veut dire que Dieu nous comprend mieux parce qu'il est devenu comme nous. Mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Dieu le Fils est devenu un homme et il va être un homme éternellement. Il est devenu l'un des nôtres. Donc non seulement il nous comprend, mais il a vécu tout ce que nous vivons. Il a été tenté comme on a été tenté. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? C'est parce que dans Jean 1, ce que Jean essaie de faire, c'est qu'il nous dit, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est plus abstrait. Dieu nous comprend. Dieu s'est fait connaître à nous. Et tout son argument, c'est que Dieu nous comprend, il nous connaît, il s'est fait connaître à nous parce qu'il est devenu l'un des nôtres. C'est vraiment important. je pourrais me présenter à plein de gens sur la terre, puis s'ils sont très religieux, lorsque je déclarerais ça, ils entendraient des blasphèmes. D'accord? Si je parle à des amis musulmans, puis je leur dis, non, Dieu s'est fait homme, je suis en train de blasphémer. C'est important de saisir cela parce que Christ est absolument unique. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu concret. La parole a été faite chair. Bien sûr de ça, Jean nous dit, la parole a habité parmi nous. J'ai mentionné ça un petit peu au début de la série, mais donc il y a deux choses, d'accord? La parole devient un être humain. Elle est faite chair. Deuxièmement, elle a vécu parmi nous. Donc, c'est pas juste qu'il a été comme l'homme parfait qui a vécu dans le ciel, puis c'est, OK, il nous comprend, il est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. Et j'avais déjà mentionné à un moment dans la série, le mot grec qui est utilisé ici lorsque Jean dit « elle a habité parmi nous », le mot grec qui est là, c'est le même mot grec que j'ai dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, qui était en circulation à l'époque de Jésus. Beaucoup de Juifs, de gens d'origine juive, ne connaissaient pas l'hébreu, ne lisaient pas l'Ancien Testament. C'était les Juifs qui étaient dans la diaspora. Ils lisaient l'Ancien Testament en grec. C'est ce que les païens qui voulaient étudier le judaïsme étudiaient aussi. C'était l'Ancien Testament en grec. Le mot grec qui est là, skénéo, c'est le mot qui est utilisé pour le tabernacle dans l'Ancien Testament, pour le temple, d'accord? Et ce que ça veut dire, c'est habiter. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu honore son peuple, il les choisit, puis il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous allez me construire une maison, une tente, je vais habiter parmi vous. Dieu qui est invisible va habiter parmi son peuple toujours. Puis Jean nous dit ici, c'était certainement glorieux, c'était certainement merveilleux. Mais vous ne comprenez pas, il est venu habiter parmi nous, pas dans une tente, dans une personne parce qu'il est devenu un homme. Il y a quelqu'un, dernièrement, on est en train d'étudier l'Évangile, puis la personne a posé la question, pourquoi Yannick, il revient toujours à Jésus? C'est comme toujours Jésus, il y a tellement d'autres sujets dans la Bible, pourquoi c'est toujours Jésus, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? C'est parce que Dieu a habité parmi les hommes dans la personne de son Fils. Ça, c'est incomparable, vous ne trouverez pas ça nulle part ailleurs. Dieu est devenu concret. Quand on essaie de connaître Dieu et on essaie de comprendre Dieu, une des difficultés qu'on a, c'est qu'il est un esprit. Mais c'est faux maintenant de dire que Dieu est seulement un esprit. Dieu est un homme. Je ne sais pas si ça rentre dans votre tête ou si ça vous chatouille les oreilles. Dieu est un homme. Et ce que ça veut dire, c'est que celui qui est théorique peut-être pour moi, celui qui a de l'air distant, celui qui est insaisissable, qui est immatériel, qui, oui, OK, c'est beau dans son ciel, tout va bien, il est au contrôle de tout, mais comment est-ce qu'il peut venir me rejoindre, moi? Il n'est plus seulement immatériel. Il est devenu un homme. Dieu est devenu très, très, très concret. Il est devenu visible à nos yeux. Et ça apporte un principe important pour les chrétiens. D'accord? Dieu s'est incarné. Puis là, on a pu l'observer, puis on lit les évangiles, puis on dit aux gens, allez lire les évangiles, vous allez voir comment Dieu est. Puis j'avais quelqu'un qui me disait, Yannick, moi, quand je lis l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne veux pas le connaître, mais Jésus, c'est cool, ça me va. Bon, là, j'avais du chemin à faire pour lui dire, c'est parce que tu n'as pas bien compris l'Ancien Testament, c'est Jésus, l'Ancien Testament. Mais concrètement, si quelqu'un veut connaître Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je dis, va lire les évangiles, regarde qui est Jésus. Tu te demandes comment Dieu, ce que Dieu pense de ce que tu es en train de faire, va lire qu'est-ce que Jésus fait. Va lire les évangiles, tu vas comprendre ce que Dieu pense. Et donc, Dieu s'est incarné, il est devenu concret. Maintenant, ce que ça implique pour nous comme chrétiens? Vous savez tous, peut-être ou peut-être pas, que chrétien, ça veut dire en réalité petit Christ. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans l'Église. Le terme chrétien, puis là au Québec, ça a tout un sens, hein? Bien, prenez-le comme ça, là, OK? Petit Christ, puis c'est comme ça qu'ils s'en servaient à l'époque. C'est exactement comme ça qu'ils s'en servaient. Donc, lorsqu'ils ont commencé à appeler des gens chrétiens, c'est pas les chrétiens qui se sont dit, « Hey, comment est-ce qu'on va s'appeler? On va être comme le team. Hey, ça va être quoi notre affaire? Oh non, on va être des chrétiens! » Non, c'est pas comme ça que ça a marché. C'était des disciples de Jésus-Christ. Les gens les regardaient aller puis ils leur disaient, vous autres, vous êtes des petits Christ. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. On le voit dans votre style de vie, la manière que vous agissez. Vous êtes des croyants qui croyaient en Jésus-Christ. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Et c'était une insulte. C'était une offense. Tu voulais insulter quelqu'un, tu le traitais de chrétien. Mais ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que les gens voyaient chez les chrétiens des choses qui leur parlaient de Jésus. Les chrétiens incarnaient la vie de Jésus. Dieu s'est incarné, il est devenu concret, et nous sommes maintenant l'incarnation la plus réelle, la plus concrète, la plus tangible de la personne de Jésus-Christ. C'est super important ce que je vous dis là. Ça veut dire que cette année, vous allez aller fêter Noël, puis les fêtes dans la famille, tout ça, vous allez voir des gens qui ne connaissent pas le christianisme. En regardant votre vie, ils ont l'incarnation la plus concrète qu'ils vont voir de la personne de Dieu. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes des petits Christ. C'est vrai. Et donc, l'implication de l'incarnation, c'est que nous, on est appelés à incarner la vie de Jésus-Christ. Juste un verset comme ça, rapidement, dans 1 Jean. Donc, des lettres que l'apôtre Jean a écrites plus tard dans les Écritures. « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en nous. » Et lui en Dieu, je m'excuse. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Fait que les chrétiens, on est appelés à être identiques à Jésus. Parce que nous sommes appelés à être l'incarnation de la personne de Christ. Dieu est esprit, il s'incarne, il devient un homme. Il part au ciel, nous donne son esprit. Les chrétiens, on est appelés à être cette incarnation-là. Et donc, oui, c'est vrai. Mon épouse puis mes 2 enfants sont censés reconnaître en moi Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, j'ai des choses à adresser avec le Père. J'ai des choses à adresser avec le Seigneur. Je veux devenir un imitateur de Christ. C'est ce qui faisait que l'apôtre Paul était capable de dire « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. » Il y a beaucoup d'implications dans ça. L'Évangile devrait être clair à travers les actions de ma vie. Ce que c'est être chrétien, ça devrait être clair à travers les actions de ma vie. Et ça, c'est juste par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver. Maintenant, Jésus est la manifestation de Dieu. Ce n'est pas simplement que Dieu est devenu un homme, c'est qu'en fait, il nous a fait connaître Dieu comme personne d'autre pouvait le faire. À partir de la venue de Jésus-Christ, Dieu n'est plus un mystère. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie, à travers des épreuves, il y a des choses difficiles, puis vous dites, « Seigneur, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas où tu t'en vas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Dieu, tu es mystérieux. » À partir de la venue de Jésus-Christ, Dieu n'est plus un mystère. Parce qu'il s'est révélé à travers la personne de Christ. Voir Christ, puis saisir qui est Jésus-Christ, c'est voir la gloire de Dieu littéralement. D'accord? Regardez Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La gloire du Fils, c'est la gloire de Dieu. Puis dans le fond, Jean, au début de son évangile, il essaie d'expliquer ce qu'ils ont expérimenté. Les apôtres ont rencontré un homme qui est venu vers eux. Puis plus ils ont vécu avec lui, plus ils l'ont regardé enseigner, comment il se comportait, faire des miracles, plus l'énigme grandissait. À un moment donné, ils ont saisi que c'était le Messie des Juifs, le sauveur des Juifs, mais c'était plus que ça. C'est comme, ils ne comprenaient pas qui il était. Puis lorsqu'on lit les 18 premiers versets de Jean, c'est un effort pour l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit-Saint, de nous faire comprendre qui est Christ, qui il est. Et puis il dit, on a vu sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus va dire dans Jean 5, 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Plus ils l'ont côtoyé, plus ils ont réalisé c'était pas quelque chose de normal qui se passait. Qu'ils étaient en train d'assister à la gloire de Dieu qui se manifestait. Christ a manifesté sa gloire à travers ses enseignements, parce qu'il enseignait comme aucun enseignant enseignait avant, c'est la parole de Dieu. Pendant 33 ans, la parole de Dieu s'est incarnée, est devenu un être humain. La parole de Dieu, la Bible, est devenu un être humain puis a marché parmi les hommes. Chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, c'est comme s'il y avait des pages de la Bible qui se mettaient à parler. Ils ont vu sa gloire. Ensuite de ça, ils ont vu sa gloire lorsqu'ils ont compris son amour, sa grâce. On va voir un petit peu plus loin, la grâce et la vérité à travers Jésus-Christ. Ils ont vu sa gloire à travers les miracles qu'il a fait. Dans l'Évangile de Jean, les miracles sont... Il y a un autre mot en grec qui est utilisé, puis ça veut dire que c'est des signes. D'accord? Et donc, chacun des miracles que Jésus fait, c'est pour montrer, il va nourrir la foule pour montrer qu'il est le pain de vie, celui qui nourrit vraiment. La vraie nourriture de l'âme, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il va nourrir une foule en multipliant des pains et des poissons. Donc, ce sont des signes pour révéler sa personne. Puis, ultimement, Christ a manifesté sa gloire à la croix, en mourant sur la croix. Les apôtres vivent avec lui pendant 3 ans, les disciples vivent avec lui pendant 3 ans. Ils découvrent à quel point il est parfait, il est surnaturel, il est incroyable. Et puis, c'est comme s'il venait tout briser ça en se faisant arrêter puis en se faisant pendre au bois. Mais en réalité, la clé de l'énigme pour comprendre qui est Jésus-Christ se trouve dans sa mort sur la croix puis dans sa résurrection. Et la clé pour comprendre la personne de Dieu se trouve à la croix, dans la mort de Jésus, dans sa résurrection. Donc, non seulement ils ont vu sa gloire puis ils ont compris que c'était une gloire incomparable, mais ça fait de Jésus la seule personne qui peut vraiment nous aider à comprendre qui est Dieu. Regardez Jean 1, 18, à la toute fin de notre section. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jésus va dire dans Jean 6, 46, « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Dans Jean 14, 9, Jésus dit encore, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, il parle à Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Si tu veux comprendre Dieu, si tu veux connaître Dieu, tu as simplement à comprendre Jésus-Christ. C'est important parce que lorsque je parle avec un ami musulman ou avec mon ami hindou, puis elle me parle de toutes les divinités, puis elle me dit « C'est bien, moi j'aime Jésus, puis Jésus c'est comme un autre, tu sais, je fais juste ajouter Jésus. » Jésus, ce n'est pas comme un nom. Jésus, c'est celui qui nous a fait connaître Dieu. C'est intéressant, au verset 18, lorsqu'il est écrit, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Le mot grec qui est là, exégesato, est-ce que ça vous dit quelque chose? Exégèse, c'est un mot grec qui veut dire explication. D'accord? Jésus, c'est l'exégèse de Dieu. Si je relis le verset 18 puis je le traduis en québécois, je vais dire « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a expliqué, qui nous l'a fait connaître. » Lorsque je connais Christ, je connais Dieu. Jésus, c'est l'explication de Dieu. C'est l'histoire de Dieu dans la personne même de Jésus. Fait qu'aujourd'hui, dire que je ne peux pas comprendre Dieu, c'est pas vrai, c'est faux. Tu peux comprendre Dieu, pas parfaitement. Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est infini, il est plus grand que nous. Mais est-ce que c'est pas vrai lorsqu'on lit les évangiles qu'on comprend l'amour de Dieu? Lorsqu'on voit sa tendresse, lorsqu'on voit le fait qu'il n'est pas religieux, c'est pas un être hypocrite, c'est pas un être double, c'est pas un être fourbe, c'est un homme qui accueille, qui pardonne, qui est patient. Lorsqu'on va à la croix, puis qu'on le voit en train de prier, puis il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je comprends l'amour de Christ. Et lorsque je comprends Jésus-Christ, je connais Dieu. Je comprends Dieu. C'est ce qui va faire qu'à la fin de son évangile, Jean va dire « Je vous ai écrit ces choses. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ et que vous croyez en son nom et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. » Pour avoir la vie éternelle, j'ai besoin d'une seule chose, connaître Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui est devenu concret, qui est devenu un homme. Puis lorsque je vais l'écouter, lorsque je vais le lire, je comprends qui est Dieu. Dieu n'est plus un mystère. Fait que les chrétiens, on ne va pas dans la vie en disant « je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie ». Je sais que ce n'est pas vrai, là, on dit souvent ça. Là. Mais un chrétien ne s'en va pas dans la vie en disant « je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire ». Non, je sais que Dieu est en train de m'aimer à travers les épreuves. J'ai toutes les explications. Paul nous le dit. Il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de nos forces parce que c'est Dieu qui l'a donné. Et je sais qu'à travers ça, il y a une manifestation de l'amour de Dieu parce qu'il a donné son Fils pour moi. Il n'y en a plus de mystère pour nous comme chrétiens. Je ne m'en vais pas dans la vie en disant « Je ne comprends pas ce que tu fais, Dieu! » La réponse est simple. J'ai donné ma vie pour toi, t'es pardonné, puis maintenant je suis en train de former le caractère de Christ en toi. As-tu d'autres questions? Ça n'enlève pas la souffrance, vous comprenez? Ça n'enlève pas la douleur, ça ne règle pas tous les problèmes. Tout ne devient pas simple. Mais tout est clair, par exemple. Tout est clair dans la personne de Jésus-Christ. Un chrétien ne s'en va pas avec un mystère dans la vie. Ces mystères-là sont résolus dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, si vous demandez des fois pourquoi on insiste, pourquoi les gens devraient commencer en lisant les Évangiles, c'est parce que tu ne peux pas comprendre vraiment les Écritures si tu n'as pas saisi qui est Christ. C'est pour ça qu'on dit à nos amis, commencez par lire les Évangiles. Une fois que vous aurez lu les Évangiles, vous allez avoir la clé pour comprendre l'ensemble des Écritures. Fait que je pourrais dire, ce serait vrai de dire, si je veux savoir ce que Jésus pense, je peux aller lire Deutéronome. Parce que c'est Jésus qui parle dans Deutéronome, c'est le Logos, c'est la parole de Dieu. Mais pour vraiment comprendre ce que Jésus est en train de dire dans Deutéronome, par exemple, ou dans Genèse, ou dans l'Apocalypse, j'ai besoin de connaître la personne de Jésus. Et ça, je vais le faire à travers les Évangiles. Je commence par les Évangiles, je comprends la personne de Christ, je saisis ce que Jean est en train de me dire ici, que c'est Dieu incarné. Une fois que j'ai saisi ça, je peux lire toutes les Écritures. Parce que j'ai la clé pour comprendre toutes les Écritures. Et je peux chercher dans toutes les Écritures. C'est quoi que Jésus veut que je fasse ici? J'ai une situation qui est difficile au travail, dans la famille, avec les amis. Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Vous connaissez l'expression? What would Jesus do? Bien, une fois que j'ai saisi qui est Christ, je peux aller chercher dans n'importe quel livre de la Bible. Parce que c'est Christ qui est en train de parler. Puis j'ai la clé pour comprendre le passage. J'ai la personne de Jésus-Christ. Jésus est l'explication de Dieu, littéralement. Et Jean, je termine avec ça. Jean nous dit que par lui, Dieu nous a donné la grâce. Jean 1, 16 à 18. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Je l'ai dit tantôt, plus les apôtres vivaient avec Jésus, plus ils étaient flabbergastés, ils ne comprenaient pas. Ils étaient avec lui puis ils recevaient des grâces divines. Ils disaient, mais il est sage, il a une réponse à tout, puis il est à propos, il n'est pas hypocrite, il est gracieux, puis il prend soin de nous, puis il est patient avec nous, puis il fait des miracles. Puis plus ils avançaient, Jean dit, nous recevons grâce sur grâce sur grâce sur grâce, plus je découvre qui est Christ. Puis quand tu lis toutes les Écritures, tu arrives dans l'Apocalypse, puis qui est-ce qu'on trouve sur le trône de Dieu pour l'éternité? C'est l'agneau immolé. Dieu va continuer à nous dispenser ses grâces pour l'éternité à travers notre connaissance de Christ, à travers l'adoration qu'on va avoir envers Christ. C'est pour ça que je sais, des fois, on est vraiment fatiguant. Jésus, Jésus, tout le temps Jésus. Oui, mais Dieu s'est fait parfaitement connaître à travers lui. Pourquoi je voudrais autre chose que Christ? Dieu le Père s'est fait parfaitement connaître à travers lui. Puis, je termine avec une idée qui est vraiment importante, d'accord? Au verset 17, Jean dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, deux choses que je veux dire par rapport à ça. Jean dit, Moïse, il a reçu la loi, littéralement, hein, les tables de la loi. Il a reçu la loi, puis il est venu, puis il nous l'a donnée. Moïse, c'est un super bonhomme. Okay? C'est un grand homme, un gars incroyable. Mais il n'y a pas de culte à Moïse qui était approprié d'aucune manière. Parce que tout ce que Moïse a fait, c'est qu'il était un messager. Il a reçu la loi de Dieu. Il allait, il rencontrait Dieu. Dieu lui parlait comme un ami. Il lui donne la loi de Dieu. Puis Moïse s'en vient la donner. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu, puis il nous a dit, « Hey, les boys, j'ai un message de la part de mon Père. Voici la grâce, voici la vérité. » Il est la grâce et la vérité dans sa personne. Jésus-Christ est l'explication de Dieu. Et voici la deuxième chose que je veux souligner, d'accord? Pourquoi est-ce que Jean, pensez à ça deux secondes, puis vous réfléchirez à ça, d'accord? Pourquoi est-ce que Jean dit, Moïse nous a donné la loi, puis Jésus nous a donné la grâce et la vérité? Est-ce que ça veut dire que dans l'Ancien Testament, la grâce n'existait pas? Dans l'Ancien Testament, il était quoi? Il était sauvé par les œuvres? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ils ont reçu la loi, puis ils sont sauvés par les œuvres. Fait que tous les bons petits juifs qui respectaient toute la loi étaient sauvés par les œuvres. Mais non, on l'a dit, l'agneau pascal. Il était sauvé par la grâce, par la foi dans le sacrifice de l'agneau, par la foi, de la même manière que nous, on est sauvés par la foi, dans l'attente du Messie qui allait venir. Donc, la grâce est là dans l'Ancien Testament. Puis, est-ce que ça veut dire que la vérité n'était pas là? Comme les 10 commandements, c'était comme une demi-vérité? Et la vérité va venir plus tard par Jésus? C'est pas ça qui se passe ici. La grâce et la vérité sont là dans l'Ancien Testament. Mais tant que Jésus-Christ n'est pas venu, la grâce n'a pas été saisie véritablement. Et Dieu n'a pas été connu véritablement tant que Jésus-Christ n'est pas venu. Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament, puis la loi a fait le travail qu'elle devait faire. L'apôtre Paul nous dit que la loi nous a montré coupables. Et toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une histoire d'échec sur échec sur échec sur échec sur échec. De grâce aussi, Dieu fait grâce, puis il ne les détruit pas, mais ils vont encore se planter, puis ils vont encore se planter, puis ils vont encore se planter. Puis ce qu'on retient de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un échec monumental. Dieu choisit un peuple, il les a aimés, il leur a donné une loi parfaite, ils se sont plantés sur toute la ligne, puis ils n'ont pas réussi à observer la loi. Puis vient le Nouveau Testament, puis vient Jésus. Puis qu'est-ce qu'on découvre à travers Jésus? Des standards de sainteté moins élevés? Non, Jésus, il dit, vous avez lu, il vous a été dit que si tu tues ton prochain, tu es un meurtrier. Moi, je te dis que si tu l'haïs dans ton cœur, tu es un meurtrier. Il vous a été dit que si tu vas voir la femme de ton prochain, tu as commis l'adultère. Moi, je te dis que si tu la convoites dans ton cœur, tu es adultère. Fait que jamais Jésus vient, puis c'est comme, OK, la grâce, c'est qu'il va nous... Il va juste comme baisser ça un peu, ça va être plus simple. T'sais. C'est ce genre de grâce-là, pas du tout. Au contraire, la loi est soulignée, puis l'importance de marcher dans la sainteté est soulignée. Puis pourtant, quand tu viens à Jésus, tu réalises son sacrifice sur la croix, tu reçois la grâce. Tu réalises que la loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament était là pour montrer notre faiblesse, notre incapacité à observer la loi. Et ce que tu reçois de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait à la croix. Tu reçois la grâce. Et je pense, je peux me tromper, je pense que lorsque Jean dit qu'on a reçu en Jésus-Christ la grâce et la vérité, c'est que c'est seulement à travers Jésus-Christ que je peux vraiment connaître le cœur de Dieu. Si j'enlève Jésus-Christ de la Bible et que je lis les Écritures, Tim Keller encore dit qu'on a notre mode de fonctionnement par défaut, c'est d'être des religieux légalistes. C'est-à-dire que notre mode par défaut, c'est de dire, OK, Dieu, j'ai compris ta loi, je ne suis pas à la hauteur, mais je vais faire des efforts puis je vais être à la hauteur. Puis en fait, si vous étudiez toutes les religions de la terre, à part le christianisme, d'une manière ou d'une autre, elles reviennent toujours à ça. L'être humain qui essaie de se justifier, de montrer qu'il s'est rattrapé, tu sais, puis finalement, il est correct. Tu sais. Peut-être que ça va prendre quelques réincarnations, peut-être 1000 réincarnations, mais éventuellement, on va y arriver à cette perfection-là, puis on va y accéder à la perfection. Mais ce n'est pas ça que Dieu est. Dieu est seul parfait, nous sommes pécheurs, puis en Jésus-Christ, je découvre la vérité. Lorsque je connais Jésus-Christ, je peux lire la loi. Je peux lire la loi, non pas avec un cœur légaliste, mais comme un guide qui me conduit dans la sainteté. Je vais lire la loi, puis premièrement, elle me condamne, puis je dis, j'y arrive vraiment pas, je suis pas parfait. Mais après ça, je me tourne vers Christ, puis je dis, OK, j'ai reçu la grâce. Maintenant, par ta grâce, je vais poursuivre la sainteté. Je peux retourner à la loi. Je suis confortable de retourner à la loi, parce que je le fais par grâce. Donc, si vous essayez de connaître Dieu, puis vous dites « Jésus, c'est bien, mais peut-être qu'il y a d'autres », vous ne connaîtrez jamais la vérité sur Dieu. Vous ne connaîtrez jamais la grâce qui est en Jésus-Christ. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, ça veut dire qu'on est appelé, nous, à incarner la personne de Christ. à incarner la personne de Dieu. Et lorsque les gens nous côtoient, ne sont pas appelés à rencontrer la loi. Ils sont appelés à rencontrer la grâce et la vérité. Ils ne sont pas appelés à rencontrer un religieux qui juge les gens avec condescendance. Ils sont appelés à rencontrer quelqu'un qui sait qu'il n'est pas capable de satisfaire la loi sainte et la loi parfaite de Dieu, mais qui a accepté la grâce de Jésus-Christ. Je peux dire les choses vraies, je peux dire ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal. Je n'ai pas besoin d'avoir un « cheap grace » qui dirait « il n'y a plus de standard parce qu'on a eu la grâce ». Je peux dire toute la vérité. Je peux dire que je suis pécheur. Je peux dire que je ne suis pas un bon chrétien parce qu'un bon chrétien, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et je peux dire à quelqu'un, toi aussi, tu es pécheur. Puis si tu ne te détournes pas de tes péchés, si tu ne t'accroches pas à Christ, non seulement tu ne connaîtras jamais Dieu vraiment, mais tu seras damné pour l'éternité pour tes péchés. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, et il t'a offert la grâce en Jésus-Christ. Les gens qui nous côtoient pendant les fêtes à Noël doivent rencontrer une incarnation de la personne de Jésus-Christ. Seulement par sa grâce, on peut y arriver. Et lorsqu'ils nous rencontrent, ils ne doivent pas rencontrer Moïse qui a donné la loi, ils doivent rencontrer Jésus-Christ qui a donné la grâce et la vérité. Qui a donné la grâce et la vérité. Je vais terminer avec une illustration, d'accord? Souvent, on a l'impression que Dieu est loin de nous et que Dieu n'est pas concret. Ça demeure, puis on dit, ouais, mais Jésus, tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir manger avec lui, puis juste le voir faire un miracle, ça aurait été tellement clair. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que nous avons sa parole, parce que nous avons les miracles qui sont là, toutes relatées dans ses Écritures, parce que nous avons son esprit qui peut nous conduire à le connaître. Et donc, c'est possible de le connaître. Dans la personne de Christ, Dieu est devenu concret et visible parce qu'il s'est fait homme. Il est devenu un homme, il a habité parmi nous. Il a été éprouvé comme on a été éprouvé. Alors imaginez un instant, un homme et une femme qui seraient les deux meilleurs amis du monde. Ce n'est pas des amoureux vraiment, ou peut-être pas, mais c'est les deux meilleurs amis du monde. Et puis un jour, là, tournez-le comme vous le voulez, la femme ou l'homme, gros accident de voiture de fou, sort de cet accident-là quadraplégique. Puis son ami essaie de le ou la consoler pendant des semaines, pendant des mois, puis lui dire, écoute, ta vie ne s'arrête pas là. Je comprends que c'est dramatique, mais ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie n'est pas finie. Et son ami passe son temps à lui dire, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que c'est tous les matins d'avoir besoin d'avoir quelqu'un qui vient prendre 2 heures pour te préparer à sortir du lit, pour te laver, pour te nourrir, pour t'habiller, parfois un inconnu. Tu ne comprends pas. Et imaginez que cet ami-là lui dit, écoute, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais est-ce que tu voudrais m'épouser pour que je vive avec toi jusqu'à la fin de mes jours puis que je porte avec toi cette souffrance-là, que ce soit moi le matin qui soit avec toi pour m'occuper de toi, moi qui sois là tous les jours. Je vais rentrer dans ta maison puis on va vivre ensemble. L'amour de cette personne-là devient extraordinairement concret à ce moment-là. Et c'est ce que Christ a fait. C'est ce que Dieu a fait en s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ. Il est devenu un homme et il ne quittera jamais cette humanité-là. Je peux savoir avec certitude qu'il comprend mes luttes, mes combats, mes peurs. Mais il a fait plus que ça encore. Parce qu'il est venu prendre le handicap de notre péché sur la croix. Afin qu'un jour, on soit entièrement libéré de ce handicap-là qu'on porte encore dans nos veines parce qu'on pêche encore trop souvent. Mais un jour, dans la gloire, avec un corps glorifié, je ne pêcherai plus. Je vais courir, je vais vivre, je vais marcher libre complètement. Parce que Jésus-Christ, non seulement m'a épousé, mais il a épousé tous mes péchés et les a pris sur ses épaules à la croix. Et c'est ça qu'on fête à Noël ensemble. On fête Dieu qui est devenu concret, qui nous a fait connaître parfaitement son Père. Jésus-Christ nous a fait connaître parfaitement le Père et Dieu n'est plus un mystère pour nous. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'apprendre à le connaître davantage et à l'aimer. Et c'est ça qu'on veut incarnés en Église en 2017, les uns envers les autres, dans nos familles, pendant les fêtes, devant nos enfants, pour notre épouse, pour notre époux, que vous soyez marié avec un chrétien ou non. J'ai l'opportunité d'être cette incarnation très tangible et réelle de la personne de Christ. Et qu'en me côtoyant, il ne côtoie pas la loi, mais il côtoie la grâce et la vérité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. Nous sommes assemblés pour élever ton nom, Seigneur, parce que tu es glorieux. Et Seigneur, si je ne t'ai pas vu physiquement devant moi, je t'ai connu, Seigneur. J'ai vu ta gloire. J'ai vu ta gloire parce que j'ai connu et j'ai reconnu que tu es Dieu. Dieu incarné, Dieu fait homme. La parole qui est devenue chair. Tu as marché parmi les hommes pleine de grâce et de vérité. Tu nous as fait connaître Dieu comme personne d'autre ne pouvait le faire. Et j'ai connu en toi la grâce de Dieu, Seigneur. J'ai connu que je pouvais devenir un enfant de Dieu. Je pouvais entrer dans ta famille, Seigneur Jésus. Ce matin, c'est ça qu'on veut faire par nos chants. On veut te célébrer, Seigneur. Accorde-nous la grâce dans les jours qui viennent, dans l'année qui est devant nous, Seigneur, à être une incarnation véritable de la personne de Christ. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manifester ta personne à travers nos attitudes, nos pensées, nos actions, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. C'est en Jésus que nous